Nadwa.
Voyage avec les experts dans le domaine de la culture, de la science et de l'éducation.
Chers fidèles auditeurs, bienvenue sur Radio Manarat pour un nouvel épisode de notre émission Nadwa. Victor Despeignes a effectué la première radiothérapie anticancéreuse au monde. Il fut d'abord un spécialiste de l'hygiène publique, mais la conjonction des idées pasteuriennes, de la découverte des rayons X et de l'aide technique probable des frères Lumière l'amena logiquement à irradier une tumeur cancéreuse. Découvrons-le aujourd'hui aux côtés de notre conférencier Nicolas Forêt, chercheur INSERM qui s'intéresse aux effets des radiothérapies.
Alors, merci beaucoup et bonjour à tous. Alors, Victor Despeignes, ça sera le tout premier pionnier, puisque tout ce que je vais vous raconter commence seulement 6 mois après la découverte des rayons X par Röntgen. Donc, vous verrez que c'est une histoire presque drôle, dans le sens où la postérité n'a pas été très, très sympathique avec Victor Despeignes. La preuve, c'est qu'il est très peu connu. Et pourtant, j'espère qu'à la fin de cette conférence, vous pourrez faire la liste très longue de ce qu'il aura fait et ce pourquoi on peut vraiment le considérer comme un pionnier, voire un anti-héros des radiations. Alors, avant tout, je voulais dépeindre le contexte complètement local, c'est-à-dire vous expliquer un peu comme Michel Amiel l'a fait, qu'est-ce c'est quoi la radiobiologie. Alors, dans notre labo, on tente de couvrir le plus large spectre de recherche possible qui concerne les radiations ionisantes, c'est-à-dire les rayons X, c'est-à-dire les rayons gamma, tout ce qui est utilisé dans le domaine médical notamment. Et en particulier, on a plusieurs pôles. Et en termes de, d'importance, c'est d'abord le pôle forte dose qui va concerner toute la recherche sur la radiothérapie. On va essayer de regarder si on peut essayer de prédire les réactions secondaires d'une radiothérapie, les brûlures radiques, comme disaient les pionniers, ce que d'ailleurs Victor Despeignes ne verra pas. Ensuite, on a un pôle faible dose qui va s'intéresser non plus cette fois aux brûlures radiques, mais plutôt aux conséquences des faibles expositions, à savoir plutôt les cancers radio-induits. Ça ne veut pas dire que les fortes doses ne font pas des cancers radio-induits, mais ça veut dire que dans le radio, d'abord les cancers radio-induits qui peuvent être considérés comme les premiers effets. Et ça, on va se poser la question à la fois dans le cadre médical, mais également dans le cadre spatial. On travaille avec le CNES, mais aussi dans le cadre militaire, puisqu'on travaille aussi avec la recherche médicale du service de santé des armées. Enfin, tout ce qui casse l'ADN, comme les radiations nous intéressent, aujourd'hui, on entend souvent parler des pesticides. Les pesticides, comme les métaux, sont des agents cassant l'ADN. Ce que je dis ici, bien qu'on ne connaissait pas l'ADN à cette époque-là, des pionniers comme Victor Despeignes se sont déjà aperçus dès le début du XXe siècle des effets de drogues chimiques, mais également donc des métaux. Donc ce n'est pas pour rien non plus qu'on suit leurs traces. Enfin, le pôle plutôt sciences humaines et sociales est un pôle qui est original en soi, puisqu'on va s'intéresser sur la perception des risques. Vous comprenez bien que quand on nous a dit que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté à la frontière, il y a des gens qui ont cru et des gens qui n'y ont pas cru. Et donc, du coup, on voit bien qu'on n'a pas les mêmes perceptions des risques. Alors souvent, en classe, j'allais dire en cours, je dis, imaginez que j'ai caché une source radioactive dans la salle, la moitié des gens vont partir en courant, d'autres vont dire non, c'est pas vrai, ou d'autres encore vont dire même si elle y est, ça fait rien. Et voilà, c'est ce sur quoi on travaille, et avec ces sciences humaines et sociales, fait partie de ce groupe, de ce pôle, la culture, et notamment l'histoire des sciences relatives aux radiations. Donc, c'est dans ce cadre de pôle-là qu'on a travaillé sur Victor Despeignes. Enfin, comme la plupart maintenant des labos INSERM, on a une fondation de start-up qui est plus ou moins chargée de valoriser tout ce qu'on fait, et notamment de commercialiser des tests de radiosensibilité. Alors, ceci étant dit, puisque j'ai placé le contexte dans le labo, maintenant je vais placer le contexte dans Lyon. J'aimerais vous convaincre, durant ces trois conférences que j'ai à faire, dans le cadre de cette exposition, que Lyon a été le berceau de la radiothérapie, de la radiobiologie, grâce à tous ces pionniers qui sont derrière moi, comme il est dit dans Cyrano de Bergerac, tous ces noms dont pas un ne mourra. Si on peut faire un sondage dans la salle, je ne suis pas sûr que vous en connaissez la moitié. Nonobstant, évidemment, les connaissances que vous avez, mais disons que, à part peut-être quelques noms de rue, le rapport est souvent obscur au grand public et même aux spécialistes de la profession. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser évidemment à Victor Despeignes. Et Victor Despeignes est né en 1866 dans un contexte, il va devenir actif dans un contexte qui est très particulier et dont j'ai parlé lors de ma première conférence. Juste un détail, Victor Despeignes est né rue Bourbon à Lyon. Alors on a cherché ce que c'était rue Bourbon, c'est tout simplement la rue Victor Hugo, la rue piétonne, et il se trouve que Claudius Rogaud, dont j'ai parlé la dernière fois, est également né juste au bout de la rue Victor Hugo. Donc cette rue Victor Hugo aura donné, avec la statue d'Ampère, de part et d'autre, Claudius Rogaud et Victor Despeignes. L'immeuble dans lequel il est né a été refait. Il date des années 50. Et donc avant, c'était un immeuble assez classique. Et je parlerai de la famille de Victor Despeignes tout à l'heure. Donc le contexte historique, il est le suivant. En 1895, on a une conjonction très rare. Peut-être quelque chose qui est comparable, souvent je compare avec tout ce qui a été fait pour comprendre l'atome à Paris, avec les Curie, avec les Langevin, etc. Eh bien, on peut dire qu'à Lyon, on a eu un peu l'équivalent, hélas mal valorisé, pour la biologie. En fait, on sait qu'en 1995, Röntgen découvre les rayons X, que les frères Lumière développent leur premier film. C'est vraiment la même année, et vous verrez, c'est quasiment le même jour. Mais surtout que ça fait seulement 3 mois que Pasteur est décédé. Et alors que Pasteur a rencontré plein d'oppositions avec sa fameuse génération spontanée, enfin, les pro-générations spontanées dans les années précédentes, à sa mort, c'est le triomphe de ses théories sur les microbes. Triomphe à tel point qu'on va mettre des microbes partout, dans toutes les théories, même là où, aujourd'hui, c'est un peu contestable d'en mettre, et notamment sur la théorie microbienne pour le cancer. Alors, vous connaissez les acquis de Pasteur. On parlera d'ailleurs de la maladie du charbon assez rapidement. Je ne vous fais pas la liste de ses découvertes. Mais encore une fois, ce qu'il faut comprendre à l'époque, c'est que le cancer, c'est une maladie de riche. La vraie maladie à l'époque, c'est la tuberculose. Donc, carrément, une maladie à microbes, là, tout le monde en est conscient. Eh bien, par rapport à la tuberculose, on va imaginer 2 choses. D'abord, que le cancer est aussi une maladie à microbes. On sait aujourd'hui, par exemple, que certains cancers de l'estomac peuvent être dus par une bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori. Ça, oui. Mais c'est vraiment l'exception, j'allais dire. Aujourd'hui, on défend une théorie qui s'appelle la théorie cellulaire, c'est-à-dire des cellules qui ont dérivé en cancer sans pour autant avoir une action, quelque part, de microbes. Mais quand les rayons X seront découverts, la première des choses qu'on va regarder aussi, c'est, dans l'utilité de ces rayons X, c'est l'action bactéricide antimicrobe des rayons X. Et donc, par définition, toute maladie qu'on croit microbienne va être soumise aux rayons X de façon systématique. Et le premier qui va faire le lien avec le cancer, ça sera Victor Despeignes. On va voir comment. Donc, pour Lyon, Pasteur, c'est quoi ? Ben pour Lyon, Pasteur, c'est deux mères. Les deux mères médecins de Lyon, que sont Gailleton et Augagneur, on a conservé les quais, mais on n'a peut-être pas conservé ce qu'ils ont fait vraiment. Ces deux médecins étaient complètement convaincus de l'utilité, j'allais dire, en santé publique, l'application en santé publique, des théories microbiennes de Pasteur. Et ça voulait dire quoi ? Un seul mot le résume, l'hygiène, voire l'hygiénisme. C'est-à-dire, ça commençait par un nettoyage des rues. Il y a des vieilles affiches qui disaient « ne pas cracher par terre ». Moi, je me souviens encore, dans les écoles, il y avait des affiches comme ça, contre la tuberculose, mais ça date de cette époque-là. Le nettoyage des rues, le contrôle de l'eau, on va le voir surtout, avec la salubrité des immeubles, et surtout l'enseignement. Enseigner l'hygiène dans les écoles, dans les écoles ménagères, auprès des femmes, auprès des hommes dans leur travail, etc. Donc, il y a eu tout un programme à Lyon qui n'aura pas, par exemple, à Paris à la même époque, tout simplement parce que les maires étaient des maires médecins. Juste un petit détail, Antoine Gailleton a un conseiller qui est une forte tête, qui est aussi convaincu des idées pasteuriennes, qui n'est pas médecin, mais qui est plutôt marchand, qui s'appelle Nicolas Despeignes. Nicolas Despeignes sera le père de notre Victor Despeignes. Et donc, dans l'historique des procès-verbaux, du conseil municipal de Lyon, dans les grandes discussions et surtout dans les satires dans la presse à cette époque que l'on peut faire sur Gailleton, puisqu'on a beaucoup de satires à Lyon, on aime bien avoir des petits dessins rigolos, eh bien Nicolas Despeignes en prend pour son grade, c'est le cas de le dire, parce que la plupart du temps, il était dans tous les mauvais coups où il fallait dire exactement ce qu'on pensait. Il était souvent secrétaire de séance et il a été, j'allais dire... sujet de moquerie et de satire, comme a pu l'être Gailleton. Donc Nicolas Despeignes est tout simplement le conseiller de Gailleton. Alors, ces deux maires, notamment Gailleton, ils vont faire quelque chose qui paraît complètement fou à cette époque. On se dit même, mais pourquoi ça n'existait pas avant ? Ils vont créer une faculté de médecine. En fait, il n'y avait pas cette idée de faculté des sciences et faculté de médecine. C'était différent. Et il va y avoir un personnage complètement central, un touche-à-tout de génie, qui va travailler sur l'édification de cette première faculté, qui est quasiment en face de nous, de l'autre côté du Rhône, puisque maintenant c'est la fac de Lyon 3. Qui est Pasteur, d'ailleurs, eh bien, c'est Louis Lortet. Alors, Louis Lortet, lui, si on faisait la liste de toutes les spécialités qu'il avait, je pense qu'on couvrirait tout le domaine de la science biologique, de la physique, de la chimie. Il était médecin, botaniste, paléontologue, égyptologue, anthropologue. On le voit, du moins on voit sa femme à côté du sphinx. Il a été l'inventeur, le créateur, le découvreur de certaines espèces d'insectes qui se trouvaient en Égypte. Donc il a donné son nom à pas mal de plantes, à pas mal d'espèces animales. Et puis il recèle beaucoup de choses. Un peu simplement pour garder à l'esprit, ce Louis Lortet, il aimait bien voyager. Et il ne tenait pas en place. Et hélas, quand il va être absent, ça va avoir des conséquences aussi pour ceux qui travaillent autour de lui. Donc, Louis Lortet, le poste de doyen de la faculté de médecine de Lyon, et le maire Gailleton, va commander à la faculté de médecine de Lyon une étude sur les microbes des eaux du Rhône et de la Saône, bref, de l'eau du robinet. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un épidémie, et notamment des épidémies de typhoïde. On note par exemple au Brotteau l'habitude des habitants avec un puits où ils vont chercher l'eau de boisson qui est juste contigu aux latrines. Ça nous paraît fou, mais déjà, vous voyez le corps. Et c'est souvent au Brotteau, c'est surtout au Brotteau qu'on va avoir le plus de typhoïde. Donc, cette étude est commandée par la mairie à la faculté de médecine. Et qui va obtenir la thèse, le financement de thèse pour travailler dessus, c'est notre héros Victor Despeignes. On va vous dire, c'est un peu un coup de piston. Puisque, vous comprenez bien, Victor Despeignes a fait ses études de sciences, son papa est un conseiller du maire. Le maire qui demande une étude et qui finance cette étude à la faculté de médecine est l'un des élèves les plus enthousiastes de Louis Lortet, c'est justement le fils du conseiller. Allez, on va dire que c'est un coup de piston, c'est comme ça que ça commence. Et finalement, ce coup de pouce, on va dire plutôt un coup de pouce, Victor Despeignes, lui, il a baigné dans les idées de politique, il a baigné dans toute cette atmosphère où tout le monde se connaît, et c'est lui qui va commencer sa thèse, donc, qui s'intitulera « Études expérimentales sur les microbes des eaux de la ville de Lyon ». Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? En fait, l'eau provenait principalement du Rhône et de la Saône. Il y avait, à l'embouchure de certains tuyaux, des filtres qu'on appelait des bougies. Ces filtres, Victor Despeignes va les récupérer, va prendre des extraits et il va les injecter à des cobayes, à des rats, etc. Je vous signale que pour avoir la toxicité des huîtres, aujourd'hui, on injecte des extraits d'huîtres à des souris. Hein. Et si la souris ne mord pas, eh ben, on peut envoyer le camion à Rungis pour dispatcher tout ça. Et bien là, il va faire la même chose. Alors déjà, il se trouve que Victor Despeignes a hérité du caractère de son papa. Quand il écrit, c'est pas pour rien. Il dit « Lyonnais, vous buvez votre caca ». Faut le faire quand même à cette époque. Et il fustige complètement notamment le quartier des Brotteaux en disant « Maintenant, il faut arrêter. On va séparer le puits, là où on prend de l'eau, et les latrines ». Retenez ça, parce qu'on va retrouver 30 ans plus tard Victor Despeignes avec les mêmes revendications. Et donc, du coup, Victor Despeignes publie une étude, j'allais dire ravageuse, sur la qualité des eaux de la ville de Lyon. Et tout de suite après sa thèse, je peux vous dire, c'est rare qu'une thèse soit suivie de certaines recommandations et ensuite que ces recommandations soient acceptées. Tout de suite, il y a une action de Gailleton et de la mairie de Lyon pour rendre beaucoup plus salibres les eaux de la ville. Alors, après sa thèse, Victor Despeignes continue son travail de zoologiste, puisque c'était l'intitulé du labo Lortet. Et Despeignes et Lortet, ils vont s'amuser. Alors, ils vont s'amuser, j'allais dire, à jouer à Pasteur. Il y a quelque chose qui a, dans la science expérimentale, vraiment marqué les biologistes, et notamment les biologistes de la santé, c'est l'histoire de la maladie de charbon, que a résolu Pasteur, simplement par une observation pratique. À l'époque, on a des moutons qui vont mourir de la maladie du charbon. Les gens ne comprennent pas parce qu'il y a des prés où les moutons tombent comme des mouches atteints par la maladie et d'autres où les moutons sont complètement sains. Pourquoi ? Pasteur voyage beaucoup, regarde, observe et s'aperçoit que l'habitude des paysans d'avoir des moutons morts de la maladie du charbon, c'est de les enterrer sur place, dans les prés. Or, une autre habitude, c'est de brûler les carcasses bien loin des prés. Évidemment, ceux qui ont les carcasses brûlées bien loin des prés ne vont pas avoir une épidémie. Et Pasteur dit, c'est simple, La maladie du charbon, elle est d'abord transmise par les vers de terre qui, issus au contact, on va dire, des carcasses enterrées, vont aller propager à travers les plantes le charbon et ensuite, éventuellement, avec les chardons ou avec, peut-être quelques blessures, eh bien, les moutons vont à nouveau être contaminés, notamment du museau et de la langue. Ça a vraiment été quelque chose de simple à comprendre, évidemment avec une simple recommandation. Si vos moutons meurent de la maladie du charbon, ne les enterrez pas sur place. Eh bien, l'Orthez et Despeignes vont essayer de faire la même chose pour la tuberculose. Ils vont essayer, il faut quand même le faire à l'époque, d'avoir des extraits de tuberculose qui vont enfouir dans des pots de fleurs avec de la terre dessus. Puis ils vont mettre des vers de terre au contact, puis ils vont laisser ça tranquille. Puis ensuite, ils vont récupérer les vers de terre et ils vont sacrifier les vers de terre et ils vont injecter ces extraits de vers de terre, je suis désolé, je suis en train de manger, mais bon, voilà, aux animaux. Et donc, ils ont montré, j'allais dire, à la Pasteur, que même la tuberculose pouvait être transmise par les vers de terre. Alors évidemment, bon, y a bien d'autres transmissions possibles, j'allais dire beaucoup plus probables, mais ils sont contents, ils ont fait une expérience très simple et ça prouve au moins quelque chose, c'est que l'Orthez et Despeignes sont complètement convaincus des idées de Pasteur. Oublions Pasteur et maintenant abordons le deuxième volet qui est les Frères Lumière. Donc, comme je vous l'ai dit, le même jour que Röntgen publie son article sur les rayons X, les Frères Lumière présentent leur première représentation publique du cinématographe. Et ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est que pour produire des rayons X, eh bien, il faut trois choses. Il faut d'abord une source d'énergie. Cette source d'énergie, elle est soit chimique, soit mécanique. Alors mécanique, c'était ce qu'on appelait des machines de Wimshurt à frottement. Ça pouvait être relié à des vélos. Le frottement produisait de l'électricité ou les piles chimiques produisaient de l'électricité et allaient ensuite dans une bobine qui augmentait la tension. Et la tension très haute allait aux bornes d'un tube à rayons X. C'est comme ça qu'on obtenait les rayons X. Ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est que tout ce matériel était considéré comme du matériel de précision, matériel scientifique, donc très cher, et surtout fabriqué à très peu d'endroits. Ce qui est manifestement représentatif, c'est la production de la bobine qui, généralement, était à cette époque la plus probable, la plus fréquente, était la bobine dite de Ruhmkorff. Ruhmkorff, c'était un Allemand qui n'avait rien du tout compris de la géopolitique, puisque lui, avant que les Allemands nous battent en 1870, il était passé du côté français. Et il avait essayé d'améliorer les canons français. Ça n'a pas servi. Par contre, il a créé une usine d'instrumentation scientifique à Paris. Il devient très célèbre avec sa bobine, que vous pouvez trouver aussi en mode miniature pour les jouets. À l'époque, des fois, les jouets électriques, les premiers jouets électriques, il y avait des bobines, des petites bobines de Ruhmkorff qui étaient sur un plan en bois. Et ça peut se trouver très facilement sur eBay, par exemple. Ruhmkorff meurt et c'est un certain Carpentier qui reprend l'affaire des usines. Mais Carpentier, lui, il va avoir une source de revenus supplémentaire. C'est qu'il va avoir l'exclusivité du brevet de fabrication du cinématographe avec un C majuscule, c'est-à-dire l'appareil des Frères Lumière, qui, je vous le rappelle, était à la fois un appareil d'enregistrement, mais également de projection. C'est quand même pas rien à l'époque. Hein. Et du coup, il fait fortune grâce aux Frères Lumière. Pour remercier, il ouvre le catalogue aux Frères Lumière et il dit « Choisissez ce que vous voulez, tout est gratuit. » Donc, notamment Auguste Lumière, qui est un passionné de biologie, va arroser Lyon, notamment les médecins et les scientifiques, d'instrumentation scientifique. Et c'est comme ça qu'on sait, avec des écrits notamment de la société, de l'Académie des sciences de Lyon, on sait comment ont été observées, faites les premières radiographies à Lyon. C'était avec des tubes à rayons X délivrés par les frères Lumière. Et ces tubes à rayons X, ils ont été donnés à au moins deux personnes qui, vous voyez l'éclair, ne pouvaient pas se voir en peinture. Étienne Destot d'un côté, qui va devenir l'un des tout premiers radiologues de France, et Louis Lortet, que je vous ai déjà présenté. Étienne Destot, lui, ne croyait pas du tout aux vertus thérapeutiques des rayons X, et il toisait, j'allais dire, du regard, puisque c'était plus ou moins en face, ce que faisaient les médecins à la faculté de médecine. Donc, retenez Étienne Destot, Louis Lortet. Enfin, évidemment, Röntgen. Donc ça, je vais reprendre aussi les choses. Röntgen, quand vous faites Wikipédia, vous trouvez soi-disant la main de madame. Vous savez que ce n'est pas la main de madame. C'est la main de quelqu'un d'autre. Juste avant, le contexte politique, c'était que en 1870, il y a trois grandes figures, Napoléon III, Louis Pasteur, Victor Hugo, et que la honte de la France, c'est d'avoir eu le couronnement de Guillaume II à la Galerie des Glaces de Versailles. Et de 1870 jusqu'en 1914, c'est vraiment la guerre entre Français et Allemands qui continue, notamment dans le cadre scientifique. Pour la recherche de l'hyperphosphorescence, c'est-à-dire ces phénomènes d'illumination naturelle, tant venant des non, par exemple des pauvres verluisants. Je dis pauvres verluisants parce que eux, ils ont été coupés en tranches, en rondelles, enfin, bref, pour savoir quel était le secret de leur lumière. Hein. Et donc, le Français de l'époque qui est à la pointe de cette recherche, c'est Becquerel. À cette époque, on sait qu'il y a une substance qui s'appelle le platinocyanure de barium, qui est une substance qui s'illumine, fluoresce, on va dire, dans certaines conditions. Et tous les gens qui étaient intéressés par ce phénomène de fluorescence avaient dans leur laboratoire une fiole avec du platinocyanure de barium. Qu'est-ce que fait Röntgen ? Tout simplement, il a l'idée de fermer les volets et de couvrir d'un carton le tube à rayon X pour voir si, par hasard, la fluorescence qui est émise dans son tube de rayon X est excitée par la lumière naturelle ou pas. Et quand il fait ça, il s'aperçoit que, au fond, à 3 mètres de là, sur une étagère, la fiole de platinocyanure de barium, elle s'illumine. Donc, si il augmente la tension dans son tube, il voit augmenter la lumière à distance dans cette fiole. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il fabrique un écran de platinocyanure de barium, il voit l'écran s'illuminer, il met la main entre l'écran et le tube et il voit pour la première fois sa main en squelette, on va dire le squelette de sa main. Donc tout ça, on connaît. Ce qu'on connaît moins, c'est le côté marketing de l'affaire, puisque quand on est sur Wikipédia, comme je vous le disais, on nous a vendu cette radiographie-là, qui est très très belle, pour la main de Madame Röntgen. C'est pas vrai, on vous ment, c'est pas ça. La vraie première radiographie, elle est beaucoup moins jolie. Je parle de la première radiographie, peut-être pas de Madame, même si Madame s'appelait Bertha, à ne pas confondre avec le canon qui, en 1914, bombardait Paris. Donc, si Madame n'est pas un canon non plus, on doit admettre que cette radiographie, peut-être étant la première, n'était pas très sexy pour être vendue comme quelque chose de très beau. Donc, Röntgen, tout de suite après la découverte, et ça sera la seule chose qu'il fera, il va essayer d'améliorer le côté cliché. Et donc, la photo qui est la plus universellement reconnue, c'est la photo d'un des collègues de Röntgen qui a posé. Mais comme tout le monde a retenu l'idée de la bague, c'est Madame Röntgen qui a prêté un bijou au copain de monsieur. Et donc, du coup, vous voyez bien que là, on est plus dans une querelle de l'image. Alors, cette querelle de l'image continue, puisque, comme à l'époque, on ne parlait très souvent que des découvertes scientifiques, contrairement à aujourd'hui, imaginez un Paris Match qui marque « Monsieur Röntgen a découvert les rayons X ». Eh bien oui, ça existait. L'Illustration et d'autres journaux montraient cette découverte. Et très tôt, d'ailleurs. Et du coup, le tsar de toutes les Russies et l'empereur Guillaume II étaient très, très intéressés par cette découverte. Et Röntgen a été invité à Saint-Pétersbourg pour faire la radiographie des mains de toute la famille impériale, là où il y a des bijoux aussi. Alors Röntgen, c'est pour ça qu'il a essayé encore d'améliorer ses techniques, et voilà ce que ça a pu donner. Ces clichés originaux sont conservés aux États-Unis. Je me suis toujours demandé comment, et un jour, un de mes collègues, un vieux collègue de radiobiologie, m'a dit bah, « c'est simple, ils ont été tout simplement vendus par les Américains, par les Russes aux Américains, parce que fallait faire de l'argent ». Et donc, vous voyez la qualité de ces radiographies de cette famille impériale que les bolcheviks vont ensuite dégommer en 1917. Donc, c'est la seule chose que l'on va conserver de intacte. À l'université de... Ça se termine en A, j'ai oublié le nom. Ça va me revenir. Non, ça va me revenir. Je suis désolé, ça va me revenir après. Donc, du coup... Ce cliché n'est pas le premier, mais c'est le plus joli. Alors, tout ça pour vous dire que Victor Despeignes, lui, pendant ce temps, en 1895, ou du moins dans ces années-là, à part faire de la zoologie, il est amoureux. Victor Despeignes est amoureux de Julie Alix Bernard, riche héritière de banquier d'Orange, de la ville d'Orange. Mais ça ne plaît pas du tout à Nicolas Despeignes, révolutionnaire convaincu et très radical. Du coup, on a conservé, j'ai pu voir, le contrat de mariage, où dans le contrat de mariage, il est marqué que le père de Monsieur Despeignes, donc de Victor Despeignes, a été complètement opposé à ce mariage. Pourtant, Victor Despeignes avait à peu près 30 ans, hein, 35 ans. Hein. Mais Victor Despeignes a envoyé un huissier à son père pour dire qu'il regrettait son opposition, mais il ne voyait pas une opposition légale à ce qu'il convole à 35 ans. Le père a envoyé un autre message en disant qu'il sortait complètement de la loi, mais il était toujours opposé. Le mariage, c'est quand même fait. Vous allez voir, c'est quand même des têtes. Hein. Le mariage, c'est quand même fait. C'est un mariage d'amour. Elle était pianiste, elle donnait des cours de piano, et on peut trouver au Musée des Beaux-Arts de Chambéry encore des tableaux de Alix Despeignes qui, très franchement, ont passé son temps à faire des tableaux. On n'a pas d'autres, d'après la famille non plus, ils n'ont pas d'autres souvenirs. Donc, comme Victor Marie fonde une famille, et pour fonder une famille, une promotion. Et cette promotion, qui serait la bienvenue, ça serait d'être directeur du laboratoire de zoologie. C'est-à-dire à la place de Louis Lortet, qui, lui, n'en demande pas mieux, parce que lui, il est plutôt intéressé à voir si autour du sphinx, il ne voit pas des insectes, pas connus, et il dit « Ah, mais sans problème, je suis d'accord, et vous êtes mon meilleur élément. Donc Victor Despeignes, c'est parti. Fait. Alors, je suis plus sûr que ça s'appelle l'agrégation, mais en tout cas, c'est une candidature pour le poste de directeur de laboratoire. Mais il y a plusieurs candidats. Et il y a un candidat surprise. Ce candidat surprise, ça va être le beau-frère, alors c'est pas le gendre, hein, il y a une petite erreur là, ça va être le beau-frère des Frères Lumière. Et alors là, on se refrotte pas du tout aux Frères Lumière comme ça. Au dernier moment, alors que Lorté est à l'étranger et qu'il aurait pu de vive voix soutenir son poulain, l'affaire tourne, ça sera le beau-frère des Frères Lumière qui va hériter de la direction du laboratoire de zoologie. Et là, on rencontre Harry Despeignes, je parle de famille, puisque c'est ça, je m'en vais. Et Victor Despeignes abandonne la recherche et décide d'être médecin de canton. Alors, médecin de canton, d'abord à Buis-les-Baronnies et ensuite aux échelles en Savoie. Aux échelles en Savoie, il y a à peu près 7000 habitants. On connaît déjà depuis un certain temps avec les archives comment s'appelait. Il y avait deux pharmaciens dans le canton et il y avait un médecin. Donc, médecin de canton à l'époque, c'était, surtout pour ce coin-là, c'était aller de ferme en ferme, en partant très tôt le matin, en venant très tard le soir, avec une carriole, parce que la plupart du temps, on était payé pas en espèces, mais en nature. Donc, ils revenaient avec des poulets, des cochons, etc. Il fallait bien vivre. Et donc, Victor Despeignes, le voilà, et sa maison est toujours conservée. C'était une maison qu'il partagée avec un notaire. Elle est au bord de la route, une des routes principales qui va à Chambéry. Et Victor Despeignes, excès donc, devient simple médecin de canton et on se dit, ça y est, il va abandonner tout le reste, etc. Et puis, quelque chose l'interpelle. L'Ortec est toujours en contact avec lui et surtout, un certain Genoux, je n'ai toujours pas trouvé une photo de Philibert Genoux, vont faire une expérience qui va interpeller en 1896, donc quelques mois après la découverte des rayons X, qui vont interpeller Victor Despeignes. L'Orté en est toujours avec ses cobayes, en est toujours avec sa tuberculose. Eh bien, il va injecter à des cobayes la tuberculose, sur les pattes, par exemple, il va utiliser les rayons X pour atténuer, pour tuer. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les pauvres cobayes ne mourront pas de tuberculose, ils mourront probablement de dermite aggravée. Tuer la tuberculose en appliquant les radiations sur des extraits tuberculiniques qu'on a injectés aux cobayes. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ça s'est fait avec le fameux tube des Frères Lumière, mais aussi, ça s'est fait, on va dire, de façon tout à fait au hasard, en irradiant deux fois dans la journée, le matin et le soir. Je ne vous en dis pas plus. Alors, Victor Despeignes, quand, en juillet 1896, arrive, un peu juin 1896, arrive son voisin. Alors, je vous le dis, j'ai pu comprendre et démontrer que c'était son voisin. Mais il arrive un patient dans son cabinet qui se plaint d'une tumeur, d'une grosseur, comme disait Victor Despeignes, grosse comme une tête de fœtus au huitième mois. Victor Despeignes diagnostique tout de suite, avec certains collègues, un cancer de l'estomac. On sait très clairement que ce n'était pas un cancer de l'estomac. Il s'est planté, ça, il faut l'avouer. Mais il se dit, et si je faisais comme les cobayes et la tuberculose, si j'irradiais ce fameux cancer dont je pense être une maladie microbienne, et je vais faire la même chose que pour les cobayes, ça m'arrange, une dose le matin, une dose le soir, puisque moi, je pars très tôt le matin de ferme en ferme et je reviens très tard le soir. Le problème, c'est que Victor n'a pas de tube à rayon X. Le seul tube à rayon X qu'il connaît, c'est celui de Louis Lortet. Ça tombe bien, ils ont terminé les expériences sur les cobayes. Ça tombe bien, le département de la Savoie est l'un des départements les plus modernes en termes de réseau téléphonique. Ça tombe bien, pour aller de Lyon aux échelles à cette époque, il faut 3 heures en changeant une fois, en train. Qu'est-ce qu'il fait ? Il suffit qu'il téléphone, qu'il s'arrange, probablement, ce n'est pas lui qui s'est déplacé, mais on sait que le 2 juillet, il dit « je n'ai pas encore le tube », le 4, je commence à irradier. Il va irradier son patient du 4 au 25 juillet. Alors, je me suis dit « tiens, c'est comme le Tour de France », sauf qu'à l'époque, le Tour de France n'existait pas. Par contre, c'est les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne. 1896. Et ce que à Athènes, ce que on a pu récupérer, c'est tout ce que Victor Despeignes a écrit, notamment dans Lyon Médical. Je pus soumettre le malade chaque jour à 2 séances d'une demi-heure. Au bout de 8 jours d'un tel traitement, je constatais une diminution considérable du volume de la tumeur. C'est là ce que j'enseigne aux étudiants. C'est là le grand coup de génie de Victor Despeignes. On ne connaissait pas la dose, mais il a démontré que le volume de la tumeur régressait. C'est ça qu'il emporte avec la postérité. Il s'est trompé, c'était un cancer de l'estomac. Le patient va mourir, il ne va pas être guéri. On sait très bien, nous, radiobiologistes, on refait toutes les simulations possibles, on sait très bien que le patient serait mort de dermite radique incroyable quelques jours après ces 20 jours. Là, ce qu'il a montré là, c'est que pour la première fois, les rayons X pouvaient réduire le volume de la tumeur. Du moins, c'est ce qu'il défendait. Le problème, c'est qu'on ne va pas le croire. On va avoir un problème. Alors, il écrit son texte en plusieurs fois, et notamment, complètement de façon surprenante, il reçoit une franche opposition. Et de qui ? D'Étienne Destot, qui va dire la chose suivante. Écoutez bien, vous avez fait boire du lait, vous avez fait boire une sorte de quinquina qu'on appelait le vin de Gondurango, qui avait mal à l'estomac. C'est probablement le vin de Gondurango ou le lait qui ont réduit la tumeur. Ou peut-être, c'est peut-être les ondes électriques des bobines, mais ce n'est certainement pas les rayons X. Alors, dans la conférence, la troisième, j'en reparlerai, mais il se trouve que Étienne Destot avait inventé une machine statique pour produire le courant. À la limite, on pouvait se passer des bobines. Et du coup, Étienne Destot, lui, dans la première partie de ses relais, l'effet secondaire qu'on voyait était dû aux bobines. Comme Victor Despeignes n'avait pas utilisé sa fameuse machine à 4 plateaux, à 12 plateaux, ça ne pouvait pas être la réduction du volume tumoral ne pouvait pas être due au rayon X. Après, on s'est posé 2 questions. Il se trouve qu'à l'Académie, on a trouvé un pli. Vous savez qu'à l'Académie, on peut envoyer un pli secret pour marquer une découverte ou marquer une idée qui, généralement, n'est ouvert que 100 ans plus tard. Il y a un certain docteur Portas du pont de Beauvoisin, qui est tout à côté, qui avait dit « Oh ben, on peut utiliser les rayons X combinés aux ondes électriques pour tuer des maladies comme le cancer. » Est-ce que Portas a chipé l'idée de Victor Despeignes, puisqu'ils étaient voisins en termes de canton et de médecins ? Est-ce que c'est l'inverse ? Est-ce qu'il y a eu Victor Despeignes qui a parlé trop ? On sait que Victor Despeignes a montré son patient à 2 autres collègues. Ça ne pouvait être que les voisins de canton. Le pli a été décacheté, c'est-à-dire que ça a été ouvert et considéré comme absolument nul par l'Académie. Il n'y a pas eu de photo, il n'y a rien eu, c'était juste une idée. Vu ce que Victor Despeignes a fait, je pense qu'on peut quand même lui attribuer déjà l'origine des idées. D'ailleurs, la preuve, c'est que le docteur Portaz n'a pas du tout insisté après, par la suite. Et puis ensuite, on s'est posé la question, qui c'est le premier patient ? Alors ça, c'est une aventure qui m'a pris 6 mois. Et il suffisait simplement, bien sûr, vous allez dire, de regarder dans l'état d'état civil, qui est mort le 24 juillet 1896, 51 ans, puisque c'était son âge, Victor Despeignes en parle. Bien sûr, j'avais son nom, on peut en parler aujourd'hui. C'est un certain Eugène Constant Colliat, C-O-2-L-I-A-T. Et cet Eugène Constant Colliat, il a aussi une histoire. En fait, c'était un confiseur, un vendeur de bonbons à Voiron. Ce vendeur de bonbons avait fait fortune dans le bonbon et voulait investir encore son argent dans des machines qui utilisaient l'eau comme force motrice, notamment pour faire de la viscose. À l'époque, c'était la soie artificielle. Et aux échelles, il y avait beaucoup de ruisseaux. Et donc, il a installé ses usines aux échelles, exactement en face de la maison de Victor Despeignes, en utilisant la force du courant. En utilisant la force du courant, il a pu allumer, enfin, disposer de l'électricité et l'éclairage dans l'usine. Ça voulait dire que les gens pouvaient faire les 3-8 à la lumière du jour. Mais le conseil municipal, on n'a pas entendu comme ça. Vous vous rendez compte, Monsieur Colliat veut nous faire travailler la nuit. Même à la lumière, ce n'est pas normal. Bref, Monsieur Eugène Constant Colliat perturbe la vie tranquille des échelles. Monsieur Victor Despeignes, médecin, soutient l'action de Monsieur Eugène Constant Colliat. En fait, à chaque fois que Eugène Constant Colliat a des problèmes pour son esprit, j'allais dire, de progrès, Victor Despeignes est derrière en disant « Non, mais moi, je vous dis que c'est bien ce qu'il fait. » Donc, ils étaient non seulement voisins, mais aussi des mêmes idées, des idées de progrès. Et on comprend comment Eugène Constant Colliat a accepté tout de suite d'être le premier patient. Parce que c'était finalement quelque chose de complètement nouveau. Pour la petite histoire, cet Eugène Constant, qui était veuf, a eu 2 filles. Ces 2 filles, à l'époque, ont fait leur thèse de médecine en 1913. C'était les premières quasiment à faire leur thèse de médecine, à qui elles ont envoyé un exemplaire pour les remerciements de leur soutien, de son soutien à Victor Despeignes. Alors, comme l'histoire est, répétitive, comme on n'a pas voulu croire à ce que Victor Despeignes avait fait, il a dit pour la 2e fois de sa vie, puisque c'est ça, j'arrête. Victor Despeignes, ça sera la première et la dernière fois qu'il fera sa radiothérapie. Et il va retrouver, j'allais dire, ses amours, puisqu'il va trouver un poste qui va s'ouvrir quasiment pour lui, d'ailleurs, à la ville de Chambéry, directeur du bureau d'hygiène de la ville de Chambéry. Et pendant 30 ans, il va se consacrer à l'hygiène. Et vous allez voir ce qu'il va faire. Le résultat, que la ville de Chambéry sera la première ville en France à obtenir la médaille d'or de l'hygiène dans les années 30. D'abord, et là ça c'est fantastique, Victor Despeignes sait qu'il faut enseigner l'hygiène. Je crois qu'il a essaimé tous les lycées de garçons et de jeunes filles de la région en faisant des conférences. Et notamment, il y a une conférence qui est restée célèbre, qui s'intitule pour un collège de jeunes filles, « Soyez coquette ». Alors, c'est un peu inattendu comme titre, mais il explique que finalement, être coquette, c'est attendre son homme dans un home, j'allais dire, une maison salubre, nette, propre, pour l'éviter de trop aller voir ailleurs au bistrot ou pire. Et du coup, si vous avez un intérieur propre, vous pourrez avoir une famille basée sur des valeurs stables. Il est contre les jupes, parce qu'il dit, ce sont des balayeuses. Ça apporte les miasmes jusqu'au paillasson de chez vous. Il est tout à fait d'accord pour que la femme fasse de la bicyclette, c'est très sain. Il n'est pas trop d'accord qu'on laisse rentrer les enfants dans les cimetières, parce que les cimetières à l'époque, il y a un peu des émanations d'odeurs pas très, on va dire, bonnes. Et du coup, il faut rendre d'abord salubres les cimetières avant d'y emmener les enfants. Il va décontaminer tous les manuels scolaires de la ville de Chambéry à chaque vacances. Enfin, il est le créateur du carnet de santé. Il va créer un carnet pour chaque élève pour être sûr que chacun a reçu les vaccinations qu'il avait. Il est très soucieux que dans les moindres fermes, on applique les règles d'hygiène. Et pour ça, il propose à la ville de Chambéry de rembourser le train ou l'auto pour que les fermiers et les fermières aillent à la ville pour avoir des consultations, notamment pour les maladies vénériennes. Et puis, dans un journal local, il va faire tous les samedis 3-4 colonnes, ce qu'il a appelé les causeries médicales du docteur Despeignes. Et il va aborder des sujets sur l'hygiène. Et il y a même un texte qui est très assez triste sur les rayons X. Il dit, ben voilà, moi j'ai essayé les rayons X, j'ai trouvé qu'il y avait une efficacité pour tuer les maladies, et je pense que pour le radium c'est pareil. Mais bon, on m'a pas cru à l'époque. Donc je laisse à d'autres le soin de démontrer tout ça. Et donc, ce qui est drôle, rappelez-vous les latrines au Brotteau, c'est qu'ils fondent la société savoisienne de logement qui va construire les premiers HLM. Et dans les HLM, il va y avoir les salles de bain séparées. Chacun aura sa salle de bain, chaque famille aura sa salle de bain, et tout sera bien séparé. Et alors, on le retrouve dans une première construction du quartier dit d'Allemagne à Chambéry. C'est une société d'habitation hygiénique à bon marché. Et moi, j'ai eu la chance de regarder, d'étudier les comptes rendus de cette société. Et on retrouve le caractère de Victor Despeignes. Un jour, quelqu'un a le malheur, dans un conseil d'administration, de contredire ce que Victor Despeignes a dit. Victor Despeignes prend la mouche et part. Il était président de la société. Puisque c'est ça, je pars. Dans le compte rendu, tout le conseil d'administration essaye de courir après chez lui, en lui présentant des excuses à l'oral. Écrit. Non. Victor Despeignes a décidé, vous ne me reverrez plus. Du jour au lendemain, il était fondateur de la première société d'HLM de France. Et puis, il dit, allez vous faire voir. Ensuite, j'ai eu le bonheur à la médiathèque de Chambéry d'ouvrir un coffre qui n'a probablement pas été ouvert depuis la mort de Victor Despeignes, qui contient des documents de Victor Despeignes, des livres. Et là, outre les thèses des deux filles de son premier patient dont je vous ai parlé, on a découvert que Victor Despeignes était le promoteur de l'espéranto dans sa région. Il a aussi eu une action très pro-féministe, et notamment, il a reçu un mémoire d'un avocat qui prônait que les femmes pouvaient être aussi avocats. Et en manuscrit, il a souligné, alors il était gaucher, hein, on a pu le savoir avec ses écrits, et il a souligné, alors que le mémoire lui est dédié, il a souligné tout ce qui concerne des phrases type du style « il y a des avocats hommes, on peut avoir des avocats femmes, il n'y a aucun problème ». Donc il était quand même très en avance sur son temps. Et évidemment, pendant la guerre 14, alors que tous ceux qui avaient le même état d'esprit allaient au front, lui, il était bien trop âgé pour ça. Et il est devenu le médecin principal du département de la Savoie. Et il est allé à nouveau de ferme en ferme pour essayer de circonscrire certaines épidémies. À tel point qu'il a eu même un texte qui s'intitulait « Comment on peut circonscrire une épidémie ?» Il faisait des enquêtes pour savoir d'où venait l'infection. Et d'ailleurs, Étienne Destot fera la même chose à peu près à la même époque. Donc, en plus de ça, évidemment, il a son petit laboratoire. Son laboratoire du bureau d'hygiène de la ville de Chambéry, il donne un texte qui décrit clairement ce qu'il pense être comme modèle de laboratoire. Un laboratoire avec tout ce qui est le plus moderne en termes d'instrumentation, mais aussi un musée à côté, mais aussi une salle de cours. Hein, cet esprit centre hospitalier universitaire, on le trouve aussi chez Victor Despeignes. Il faut faire, savoir et faire savoir. Et donc, du coup, cette idée-là a fait des petits, notamment à Chambéry, puisque le bureau d'hygiène aura une vie très longue grâce à Victor Despeignes. Puis un jour, il est au laboratoire et soudain, il a mal à l'estomac. En fait, il va avoir une perforation, on va essayer de l'opérer, il va mourir pendant l'opération. En fait, exactement, il va mourir chez lui. Alors, il était mort 3 rues de la République. Et moi, j'ai essayé de trouver où c'était cette 3 rues de la République, puisque les rues avaient changé à Chambéry. Et il se trouve que, si vous connaissez Chambéry, on a la médiathèque, qui est la bibliothèque de Chambéry, avec ses archives. Et on s'est aperçu, alors qu'on avait la maison juste en face, que c'était justement en face que Victor Despeignes était décédé. Donc c'est une petite maison, enfin une sorte d'immeuble comme ça, et il est mort au premier étage de cet immeuble. Alors Victor Despeignes aujourd'hui, je peux vous dire que, hélas, on ne connaît pas trop. Il y a une rue proche du centre anti-cancer Lyon-Bérard, une rue Victor Despeignes qui fait à peu près 200 mètres. Et puis, c'est tout. On n'a pas d'autre chose. Alors, évidemment, les échelles ont essayé de promouvoir, on va dire, cette histoire. À côté de la maison de Victor Despeignes, il y a un chemin de randonnée. Et il y avait un panneau. Et ce panneau, le voici, ce panneau décrit un tube à rayon X qui, hélas, n'est pas du tout celui que Victor Despeignes avait, puisque son tube était l'un des premiers tubes en poire. Et donc là, on a un tube qui date, on va dire, de l'année 1897 ou plus. Victor Despeignes va être enterré, non pas à Chambéry, mais va être enterré à Vinsobre, puisque la famille des riches banquiers, donc de sa femme, avait une villa secondaire. Et il va être enterré au petit village de Vinsobre, dans la ville de Vinsobre, au pied du Mont Ventoux, dans une tombe qui est quasiment anonyme, puisque là, quand la première fois je suis allé, je suis en rapport évidemment avec cette famille, c'est la famille Bernard Despeignes, il venait juste de nettoyer la tombe, mais il n'y avait pas d'autres plaques marquait avec son nom. Et c'est pour ça que l'année dernière, Michel Amiel participait au séminaire à Lyon, nous avions séminé le temps de la première radiothérapie avec une cérémonie et une conférence aux échelles. On a eu un séminaire à Lyon et à Vinsobre, on a pu déposer une plaque sur la tombe de Victor Despeignes qui disait que c'était le premier qui avait fait la première radiothérapie. Alors, quand on regarde les Américains et le milieu anglo-saxon, on s'est aperçu que Victor Despeignes n'était pas du tout cité. On citait un certain Émile Grube, qui, soit en février-mars 1896, quelques mois avant, avait soi-disant fait une radiographie. Premièrement, la première radiothérapie. Premièrement, il y a eu quasiment, on va dire, 30 ans qui s'est passé après Émile Grube, ce que Émile Grube aurait pu faire. Il a envoyé une lettre en disant, 1930, bon, c'est moi qui ai fait la première la radiothérapie, je n'ai pas conservé les documents, mais c'est moi. Du FBI qui a montré que les documents qu'il avait fournis étaient des faux. Ce qu'il faut retenir, parce qu'il faut rester sûr, c'est que Victor Despeignes avait Émile Grube l'avait traité un sain. Or, pour voir une diminution de la tumeur comme Victor Despeignes l'avait fait, c'était impossible. Pourquoi ? Parce que ce dont a souffert notre fameux Eugène Constant Collia, ce n'était pas du tout un cancer de l'estomac, c'était un lymphome. Or, les lymphomes sont très radiosensibles. Et c'est pour ça qu'on a vu une diminution du volume de la tumeur très, très précoce. Donc, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que Victor Despeignes, il a une chance extraordinaire. Parce que, un, il s'est trompé, ce n'était pas un cancer de l'estomac. Deux, il a fait sans le savoir du bifractionnement, ce qui a pu assurer son patient une survie d'au moins 20 jours. Et pendant ces 20 jours, parce que cette tumeur était radiosensible, il a pu voir la diminution du volume tumoral. Trois chances, on va dire d'une chance au cube. Alors que Émile Grube, pas du tout, c'était pas possible. Un petit détail. Je vous ai dit tout à l'heure que Eugène Constant Collia, son voisin, avait voulu faire des usines de viscose. Pour faire de viscose, à l'époque, il fallait beaucoup d'acide et beaucoup de soude. Bref, des produits chimiques qui sont comparables à ce qu'on utilise dans la production de la pâte à papier. Or, il existe un cancer professionnel des faiseurs de pâte à papier qui est le lymphome. Il est très possible que le voisin de Victor Despeignes ait souffert d'un cancer professionnel. Et donc, ironie, le premier cancer qui aurait été soumis à une radiothérapie aurait été le premier cancer professionnel.
Nadoua.
Voyage avec les experts dans le domaine de la culture, de la science et de l'éducation.